pavé dans la mare.
Un pavé dans la mare.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du pavé dans la mare qui se passe une fois de plus à Herbel. Nous avons planté le décor en plein milieu de l'espace lecture de l'ACLM. Alors ACLM, ça veut dire Association culturelle d'espace lecture et d'écriture en Méditerranée. Nous avons poussé les étagères, les romans, les BD pour pouvoir accueillir le plus de monde possible pour cette émission en public. Merci d'être là. Pour cette émission, je suis accompagné de mon compère et homonyme Charles à la réalisation. Bonjour Charles.
Bonjour Charles.
Ça va ? Vous savez qu'à chaque émission, nous avons le plaisir de recevoir un ou une invitée qu'on surnomme entre nous la libellule et qui viendra volter, virevolter de sujets en rubrique. Bonjour Nelly.
Bonjour, bel homme en chemise verte. Les Charles sont en chemise verte et cravate verte. Vous êtes magnifique.
On est beau comme ça. Hein
ouais.
C'est fait exprès. Alors Nelly, qui êtes-vous ?
Écoute, moi je vais me définir par un petit poème que j'ai trouvé, puisque je suis une libellule, donc j'aime les étangs. Et à l'espace lecture, j'ai trouvé ça. Regardez, je vous le montre. Il y a marqué mon pays est un jardin. Et à l'intérieur, il y a de courts textes. Et des aquarelles absolument magnifiques. Et je voulais vous lire ce tout petit poème.
Allons-y.
Qui dit « Les Chinois tirent de leur étang de gros poissons de pierre qui dormaient dans la vase depuis des millénaires. Ils les dressent sur le sol et tout autour bâtissent un jardin qui est comme l'abrégé du monde. »
C'est beau.
Voilà, pour une libellule, je trouvais ça bien.
Ouais, c'est un super texte de libellule, un peu de poésie, ne fait pas de mal. Alors aujourd'hui, pendant une heure, avec vous, on empruntera différents sentiers. On connaît tous l'école, je crois qu'il y a, des enfants et des ados ici qui connaissent bien l'école, mais il existe aussi des classes qu'on appelle des classes relais. Alors qu'est-ce que c'est qu'une classe relais ? On en parlera tout à l'heure avec vous, Roukia Hassani. Bonjour.
Bonjour.
Alors, qui êtes-vous, Roukia ?
Donc, moi, je suis Roukia Hassani. Je suis professeure d'une classe relais au collège Point de Vivo. Et c'est une classe relais mixte parce qu'il y a plusieurs dispositifs de ce genre. Donc, nous, on accueille des élèves en décrochage scolaire.
D'accord.
Pour les aider à reprendre leur classe d'origine avec beaucoup de motivation. Et
Très bien, bon, on en parlera plus profondément tout à l'heure. Okay. Je vous remercie. Du 3 au 8 mars a eu lieu ici à Herbel la semaine des droits des femmes. Qu'est-ce qui s'y est passé ? Ivan Morantin, bonjour, vous nous en parlerez tout à l'heure. Qui êtes-vous, Ivan ?
Bonjour, moi je suis animatrice de la vie locale au centre social Herbel et je suis en charge particulièrement de la participation des habitants, des actions... on peut les accompagner, et des animations festives du quartier.
Merci. Alors, bien entendu, vous retrouverez nos rendez-vous habituels, la météo d'Herbel, ainsi que notre grand jeu, le « Tu crois quoi ?».
Un pavé dans la mare.
Il y a quelques semaines, nous nous sommes rendus au centre social pendant un cours de français, et nous avons rencontré des personnes qu'on appelle des primo-arrivants. Alors moi, la première fois que j'ai entendu primo-arrivant, je ne savais pas ce que c'était. Je croyais qu'un primo-arrivant, c'est quelqu'un qui est arrivé le premier. Donc je pensais que c'était ceux qui gagnent les courses, les explorateurs ou ceux qui vont sur la Lune. Mais en fait, ce n'est pas ça. Un primo-arrivant, c'est la définition du dictionnaire, c'est un étranger qui arrive pour la première fois sur le sol, en l'occurrence le sol français, puisque c'est là que nous nous trouvons. Donc c'est ça, un primo-arrivant. Alors, parmi les personnes qui avaient, pendant ces cours de français, il y avait Fatima, Ranim, Ililfi, Raphaël, Edita, Ejrad, Queen, Jorge. On leur a proposé de nous raconter des histoires. Et eux, ils nous ont raconté leur histoire, ou leur, un petit bout de leur histoire. Des histoires de départ, d'arrivée, de voyage, d'exil, de fuite. Et puis il y a ceux qui ne voulaient pas raconter, alors ceux-là, ils ont chanté. Durant cette émission, à plusieurs reprises, on rendra visite à chacun et chacune d'entre eux. Et on commence tout de suite avec Raphaël et Edita.
Alors, bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 26 ans, je suis arménien. Mon profession, je suis dentiste en Arménie. Je suis venu d'un pays où est née une personne qui est 100% française et 100% arménienne. Pour toi, Arménie. Il s'appelle Charles Aznavour. Vous avez compris déjà, je pense. Mais je peux chanter aussi. C'est Doudou, hein? C'est ajouté. Alors, merci. C'est tout.
Bonjour, je m'appelle Edita. Je suis arménienne. Je suis mariée. J'ai arrivé à la France en 2014. Moi, il y a trois enfants et une. J'attends une fille. La France, c'est bon, ça va. Non, arménienne, beaucoup, ça va. Ça va, très bonne nature. Et beaucoup manqué arménienne. Que sororem yesasum minchevlus katesnes du koanushik yerazum. C'est bon. C'est la bébé aller dormir, se chanter pour bébé.
Voilà, c'était Raphaël et Edita qu'on a rencontrés pendant...
C'est super joli tout ça. Hein.
C'est beau, hein ?
Ouais.
Pendant un cours de français. Moi, quand j'avais des cours de français, jamais on chantait
on
comme ça.
On ne faisait pas chanter.
En arménien, non. Alors, Ivan, quand on est primo-arrivant, comment est-ce qu'on arrive dans un cours de français ?
Alors, les personnes qui arrivent au centre social pour prendre des cours de français, ils viennent du quartier pour une partie. Et les autres nous sont en fait orientés par des dispositifs, par Pôle emploi. Ils ont déjà fait un parcours par l'OFI, qui est l'Office français par où arrivent les étrangers pour avoir un titre de séjour. Et quand ils arrivent, normalement, ils sont censés parler un petit peu français et nous, on les accompagne vers meilleures pratiques. Et puis aussi la découverte de plein de choses, la découverte des valeurs de la République, de comment est-ce qu'on va acheter... on va acheter son pain, comment est-ce qu'on rend la monnaie. Enfin, on les accompagne sur beaucoup de choses pour qu'à la fin de ce stage, qui dure 4 mois, ils puissent être le plus autonome possible et le plus à l'aise dans la société française.
Comment est-ce que s'appelle déjà la prof de français qu'on a rencontrée ?
Alors, la prof s'appelle Nadia.
Nadia.
Et donc, elle a commencé, Nadia Bouaba. Et elle a commencé avec les primo-arrivants et elle donne aussi des cours de français à des personnes qui veulent juste renforcer leur français et qui habitent Herbel.
Alors, on reviendra vers vous, Ivan, pour plus d'informations parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire plusieurs allers-retours pour entendre les rencontres qu'on a faites dans ces cours. Ici, dans cet espace lecture, on a rencontré Thomas, Yanis, Ryan, Sarah... Adam, Samy et Asma. qui font partie d'une classe relais. Alors, on a parlé ensemble de cette idée d'aller conter une histoire à des classes de petits, je crois, des maternelles. Donc, ils ont choisi une histoire, ils l'ont lue, et ils l'ont même racontée. Ils ont bien voulu qu'on les enregistre, et voici ce que ça donne.
À Calico Chant de Anthony Brown. Monsieur Pourchamp vivait avec ses deux fils, Simon et Patrick, dans une belle maison, avec un beau jardin. Il avait une belle voiture qu'il garait dans son beau garage. Sa femme demeurait à l'intérieur de la maison.
Dépêche-toi de me servir le petit déjeuner, chérie!
Criait-il chaque matin avant d'aller à son très important travail.
Dépêche-toi d'apporter le petit déjeuner, maman!
Criaient Simon et Patrick avant de partir à leur très importante école.
Dès qu'ils étaient partis, Madame Pourchamp lavait la vaisselle. Faisait les lits. Passait à l'aspirateur. Puis, elle filait à son travail.
Dépêche-toi de préparer le dîner, maman!
Criaient chaque soir les garçons quand ils rentraient de leur très importante école.
Dépêche-toi de me servir le dîner, ma vieille!
Criaient chaque soir Monsieur Pourchamp quand il rentrait de son très important travail.
Quand ils avaient terminé, Madame Pourchamp lavait la vaisselle. Mettait le linge dans la machine. S'occupait du repassage. Et faisait encore un peu de cuisine.
Un soir, la maison était vide quand les garçons rentrèrent de l'école.
Oui, maman ?
Demanda Monsieur Pourchamp en rentrant du travail.
Madame Pourchamp resta introuvable.
Il y avait une enveloppe sur le manteau de la cheminée.
Monsieur Pourchamp l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier.
Vous êtes des cochons!
Mais que va-t-on faire?
Mais qu'est-ce qu'on va devenir?
Qu'allons-nous faire?
Ils durent préparer eux-mêmes leur repas. Cela a pris des heures et c'était infect.
Le lendemain matin, ils durent préparer eux-mêmes leur petit déjeuner. Cela prit des heures et c'était infect.
Madame Pourchamp ne rentra pas ce jour-là, ni le lendemain, et le surlendemain non plus. Monsieur Pourchamp, Simon et Patrick essayèrent de se débrouiller tout seuls. Ils ne lavaient plus la vaisselle. Ils ne lavaient plus leurs vêtements. La maison ressembla bientôt à une porcherie.
Quand est-ce que maman va rentrer?
Mais quand est-ce que maman va rentrer?
Qu'est-ce que j'en sais, moi?
Un soir, il n'y avait plus rien à manger à la maison.
Il ne nous reste plus qu'à fouiller pour trouver des restes.
C'est à ce moment-là que rentra Madame Pourchamp.
S'il te plaît, reviens.
Alors Madame Pourchamp resta.
Monsieur Pourchamp lava la vaisselle.
Patrick et Simon firent les lits.
Monsieur Pourchamp repassa le linge.
Et pour la cuisine, tout le monde participait.
Ils y prenaient même du plaisir.
Maman était heureuse aussi.
Elle pouvait enfin réparer la voiture.
Et voilà. Alors ?
Oh bah yes, alors, moi je suis pour que madame, j'ai pas compris son nom,
Porchon.
Se fasse plaisir et répare les bagnoles, ça c'est super.
Puis apparemment elle est partie faire un tour à fond la caisse.
Ouais. Et pour que ce soit tous les jours aussi la journée internationale des droits de la femme et pas simplement une journée par an.
Voilà, bien dit.
Hein ?
Alors, non mais... Roukia Hassani, je rappelle que vous êtes enseignante, coordinatrice de la classe relais mixte du collège de Pont-de-Vivo, et c'est avec vous et vos élèves qu'on a fait, qu'on a fabriqué cette petite histoire.
Oui, qui est d'ailleurs bien réussie.
c'est grâce à eux.
Je suis fière d'eux. Hein.
Roukia, c'est quoi une classe relais ?
Alors, une classe relais, c'est des dispositifs en fait, qui ont été créés en 2005 pour aider aux élèves en difficulté. Un décrochage scolaire, donc parce que dans les collèges, on a des élèves qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés pour suivre les cours dans leur classe d'origine. Donc, on les enlève de leur classe pour une session de 6 semaines à 8 semaines. Ils viennent en classe relais pour reprendre goût aux apprentissages. Et dans ces classes relais, moi, dans la classe relais de Pont-de-Vivo, on a mis des projets en place pour justement valoriser les élèves et leur donner, enfin, qu'ils reprennent confiance en eux. Et ensuite, au bout de 6 à 8 semaines, qu'ils puissent retourner dans leur classe d'origine avec la motivation et l'envie de continuer les études.
D'accord, le but, c'est de redonner confiance.
Redonner confiance à l'élève et valoriser l'élève aussi. Parce que c'est vrai qu'ils ont des difficultés, mais ils ont aussi beaucoup de compétences.
Oui, et de qualité,
et de qualité à montrer. Voilà. Donc, comme là, le groupe que j'ai actuellement, donc, ils sont 10 au maximum. On a 10 élèves au maximum dans une classe relais.
D'accord.
Donc, l'effectif est vraiment réduit pour qu'ils puissent justement rattraper le retard qu'ils ont. Et reprendre ensuite une scolarité, entre guillemets, normale.
D'accord. Et comment ça se passe une journée type ? Est-ce que c'est comme au collège ?
En fait, ce n'est pas vraiment comme au collège parce que les heures sont réduites. Donc, on commence à 9h et on finit à 15h30 tous les jours. Et donc, on fait les apprentissages, on fait maths, français, histoire. On ne fait pas toutes les matières font dans la classe d'origine, c'est-à-dire on a des différents niveaux aussi.
D'accord.
Dans la classe relais. Donc on a des 5e, des 4e et des 3e, ou sinon, ça dépend des sessions, sinon on a des 6e, 5e et 4e mélangés.
Okay.
Donc on ne fait pas des cours classiques comme en classe normale en fait. Donc c'est des rattrapages. Donc ils font les matières par rapport aux difficultés qu'ils ont. On travaille au cas par cas.
J'ai cru entendre un battement de libellule.
Oui, tout à fait. C'était juste pour savoir comment a été vécu ce racontage d'histoire que vous avez fait ensemble, Charles et le groupe, et si vous faisiez des choses de ce type-là régulièrement.
Oui. On va dans une école maternelle du secteur, qui s'appelle l'école maternelle Sacoman. Donc les élèves, ils vont lire au tout petit.
Ah, ils font de la lecture à
haute
voix.
Ils font de la lecture au tout petit, petite et moyenne grande section. Donc, ils préparent leur lecture en classe pendant la semaine. Et ensuite, ils se rendent avec les albums à l'école maternelle pour lire au tout petit des histoires.
Ça leur plaît ?
Ça leur plaît. Ça plaît aussi aux petits. Et les élèves de la classe relais, ils se sentent... à l'espace de quelques minutes, comme les maîtresses de ces élèves-là.
Oui.
Donc, ça leur valorise et ça leur donne une confiance en soi.
Ça les met à la place de prof. Quoi.
De prof, voilà.
Ouais, puis c'est un très beau cadeau, la lecture pour les autres. La lecture à haute voix, c'est un cadeau.
Oui, exactement.
Roukia, est-ce que vous avez, peut-être pour finir, une anecdote à nous raconter ou quelque chose
Oui, je peux dire qu'en fait, quand on reçoit les élèves de la classe relais, je peux peut-être donner un exemple que j'ai vécu qui m'a vraiment touchée. Mmh. On avait une élève qui était absent pendant deux ans au collège. Donc, il est venu en classe relais et il est resté 8 semaines pour la session de 8 semaines. Donc, il a repris goût et il a voulu continuer et faire un CAP pour justement se professionnaliser. Donc ça, c'est quelque chose qui peut faire plaisir, qui montre que ça peut fonctionner, ça peut marcher.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup, Roukia.
Merci à toi.
Et bravo.
Merci.
Bravo.
On retourne à présent dans la salle de cours de français de Nadia Bouaba pour écouter les voix de Fatima, Ranim et Hililfi.
نكتب سير الأبطال للأطفال ونحلم بالورد والخبز والزيت وكتب الحب والنار ورسم العصافير والتذكار وعشق المطر والأزهار مناضلون مناضلون مناضلون
Je m'appelle Fatima.
ونحلم بالورد والخبز والزيت وكتب الحب والنار ورسم العصافير والتذكار وعشق المطر والأزهار مناضلون مناضلون مناضلون
La chanson, elle parle de la liberté, de le pays, Palestine.
Oui, Palestine, la liberté. عشق les oiseaux, le matar, les pleurs, والأزهار لفلور نكتبو سير الأبطال للأطفال صافي
Maintenant elle raconte juste elle parle de quoi la chanson Elle parle de la liberté, parle de l'amour, elle parle de le courage et le droit. Comment on prend le droit? Oui, dans le pays.
Les oiseaux واتذكار صافي souvenir وعشقي وعشق المطاري لي بلوغ والازهار صافي كي تجي المطاري يجي الازهار لي فلوغ لي بلوغ لي فلوغ
Je m'appelle Rani. Je viens de Tunisie depuis 8 mois. Aujourd'hui, je vais chanter une chanson de l'amour, quoi.
دخلك شو أخبارك اللي اشتقت لك انت اشتقت لي دخلك شو أخبارك اللي اشتقت لك انت اشتقت لي اشتقت لك طبعا أكيد يومي حبك بيزيد تعرف حتى وانت بعيد قلبي معك ما في إلك ما في بغيابك شو صاير في ما في إلك ما في بغيابك شو صاير في انت بقلبي وروحي متصور يومي بعينيك بتسهر كل ما بحن لك بتذكر حالي طفلة وتركض ليك اشتقت لك طبعا اكيد يومي حبك بيزيد تعرف حتى وانت بعيد قلبي معك
je veux dire seulement que maman tu me manques beaucoup tu me manques beaucoup mes frères aussi et ma petite Agnès et je l'ai dit je t'aime beaucoup maman c'est tout
je suis triste
Bonjour tout le monde, je m'appelle Lilifi, c'est moi l'histoire de mon mariage. Le pays de l'Algérie.
Je demande la main de trois filles et personne ne m'accepte, mais après je trouve mon amour. elle m'accepte et elle m'a donné mon valeur et elle m'aime beaucoup et moi aussi j'aime beaucoup.
وبمناسبه عيد ميلادي 27 مارس نقدم لزوجتي شباب الخيره نقدم لها تحياتي ليها والعائله تاعها.
Je remercie ma femme et sa belle famille parce qu'elle est très gentille avec moi. Elle m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup quand je viens ici de la France. Pour mon anniversaire, le 27 mars, je lui ai dit merci ma femme, merci beaucoup. Et ça s'appelle Khaira et je t'aime beaucoup.
Joyeux anniversaire, Elilfi, du coup. Voilà, je me tourne vers Ivan. On a entendu un petit extrait là, de ce qui se passe dans un cours de français, dans le centre social de Herbel. Et heureusement qu'il y avait Ranim qui a traduit un petit peu tout ce qu'on a entendu ici, de façon très spontanée. Vous voulez nous dire un petit mot sur Ranim, peut-être, Ivan?
Oui, Ranim, c'est une jeune fille de 21 ans qui est arrivée en France il y a 6 mois, qui ne parlait pas français, qui traverse les tempêtes toujours droite, toujours debout, et on ne sait pas comment elle fait. C'est une jeune fille incroyable qui donc a pu faire la traductrice pendant ce cours de français, et ce qu'elle fait régulièrement d'ailleurs, alors qu'elle apprend le français depuis... elle a commencé le stage en novembre, et elle apprend le français depuis qu'elle est arrivée. C'est quelqu'un de pétillant.
Alors, Ivan, ça y est, c'est le printemps. Depuis peu. Mais le temps n'est pas encore tout à fait affirmé, je trouve. Non, vous ne trouvez pas? J'essaie de faire un enchaînement qui ne se voit pas.
On est très attentif, on essaie de comprendre, mais je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas compris.
Alors attendez, vous allez comprendre.
Pourtant, je suis une grenouille, je fais la météo, tout
justement,
ça.
Justement, mais voilà. Je pense que c'est le moment d'écouter la rubrique Météo d'Herbel.
La météo d'Herbel.
Allô. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, qui est là?
Aïda.
Ça va bien?
Oui.
Alors dis, Aïda, où es-tu?
Je suis en Océanie.
Où ça? J'ai pas compris.
Océanie.
Mais c'est où ça, l'Océanie?
Ben, autour de la mer.
Alors, on t'écoute, Aïda. Quel temps fait-il en Océanie?
Aujourd'hui, il pleut des cordes.
Il pleut...
Des cordes.
Ah, il fait mauvais temps, c'est ça?
Non, des vraies cordes.
Ah, mais comment ça?
Des cordes à linge, des cordes de guitare, des cordes pour grimper, des cordes pour attacher le bateau.
J'avais jamais entendu parler de ce genre de temps, c'est la première fois. Et quel temps fera-t-il demain en Océanie, Aïda?
Il fera un temps de chien.
Ah, il va encore faire mauvais temps?
Non, il va pleuvoir des os. C'est un temps spécial pour les chiens.
Ah oui, bah ils ont l'air, on les entend, ils ont l'air contents. En tout cas, merci beaucoup, Aïda. Merci.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
De rien.
Bon, et à très bientôt.
Au revoir. C'était Aïda à l'appareil. À vous les studios.
La liaison est pas terrible, mais... Allô. Allô.
Bonjour.
Bonjour, c'est qui?
Tzilima à l'appareil.
Bonjour Tzilima.
Bonjour.
Alors dis-nous, où est-ce que tu te trouves?
Bonjour, je me trouve en ce moment même en Allemagne.
Et quel temps fait-il en Allemagne?
Et il y a beaucoup de soleil, donc tout le monde transpire.
Ah, tout le monde transpire, du coup, j'imagine que...
Ça schlingue, mais heureusement que j'ai mis du parfum à la fraise dans toute la ville.
D'accord, et demain, quel temps est prévu en Allemagne?
Je pense qu'il y aura au moins un peu de pluie et aussi du soleil.
Mais dis-moi, tu parles du nez? Tu as mis une pince à linge sur ton nez?
Ouais.
Je pense que tu ferais mieux de l'enlever. Ce sera plus simple. Hein?
Ah, ça fait du bien.
Voilà. Merci beaucoup, Tsilima.
De rien.
Merci et à bientôt.
Tsilima à l'appareil.
Allô? Allô?
Oui?
Y a que... Bah bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Mais c'est qui?
C'est Rachida.
Qui ça?
Rachida.
Ah, mais Rachida, je la connais. Bonjour. Alors dis-nous, où tu es, Rachida?
Je suis sur la muraille de Chine.
J'ai pas bien compris. Où ça?
La muraille de Chine.
Ça souffle un peu derrière toi. Et qu'est-ce qu'on entend?
Une tempête de neige.
Ah, et ça, tu as entendu ce bruit?
Oui.
Là oui. Mais qu'est-ce que c'est? On entend un bruit, là. C'est quoi?
Parce qu'il y a des enfants qui me jettent des boules de neige.
Non, mais il faut pas te laisser faire, Rachida. Il faut que tu leur dises d'arrêter. Il faut pas te laisser faire par les enfants.
Arrêtez, sale gosse.
Voilà, c'est mieux. Il faut parfois faire preuve d'autorité. Et quel temps est prévu pour demain, Rachida, sur la muraille de Chine?
Demain, il va faire du soleil.
Excuse-moi, j'entends pas.
Du soleil.
Oui, d'accord. Merci, Rachida. Merci beaucoup.
De rien.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Rachida, à vous les studios.
Oula, on est où, là? Allô, y a quelqu'un? Allô?
Bonjour.
Bonjour, comment tu t'appelles?
Je m'appelle Morad.
Ah, bonjour, Morad. Ça va?
Oui.
Bon. Alors, tu es où, là?
Je suis dans la planète Mars.
Ah bon? Et quel temps fait-il sur la planète Mars?
Il pleut des morades.
Il pleut des quoi?
Des morades.
Il pleut des garçons comme toi. Des morades.
Oui.
Et vous êtes nombreux, du coup, alors?
Oui, au moins 10 000.
Ah oui, quand même, ça fait beaucoup.
Je sais. Hmm.
Mais pourquoi tu es sur la planète Mars, Morad?
Parce que en Mars, c'est mon anniversaire.
Ah, bah bon anniversaire alors, Morad.
Merci.
Ça te fait quel âge?
J'ai 7 ans.
Bah, tu les fais pas. Tu sais chanter, toi, Morad?
Un petit peu.
Et est-ce que tu parles le martien, Morad?
Oui, je parle martien.
D'accord. Alors chante-nous quelque chose en martien. Tout le monde t'écoute. Bravo, bravo, on a tous reconnu la chanson. Tu chantes très bien, Morad. Vraiment.
Merci.
Et alors, quel temps va-t-il faire demain sur Mars?
Demain, il va pleuvoir des tassis.
Des tassis? Mais qu'est-ce que c'est quoi ça, des tassis?
C'est ma sœur.
Ah, mais Morad, tu te fiches de moi, là, je crois. Bon, en tout cas, merci, Morad. Merci beaucoup.
Merci.
Et à bientôt. Au revoir.
C'était Morad, à vous les studios.
Ah, tiens, Morad, comment est-ce qu'on dit « C'était Morad, à vous les studios » en martien? C'est fantastique.
La météo d'Herbel.
Au revoir, passez une bonne journée.
On quitte Mars, on redescend sur Terre. Tout à l'heure, on a entendu Raphaël, Editha, Fatima, Ranim, Helilfi. C'est au tour d'Ejrad et de Queen. Eux aussi sont en train d'apprendre le français. Alors, je voudrais dire qu'Ejrad est plus à l'aise en anglais. Je vais tenter d'essayer de traduire le moins mal possible ce qu'il va dire.
Bonjour, je m'appelle Ejrad. Je viens d'Afghanistan. J'ai arrivé en France en 2018. J'habitais à Marseille depuis 5 mois. J'ai une histoire about my life.
Une histoire à propos de ma vie.
How I started my journey.
Comment j'ai commencé mon voyage d'Afghanistan en 2009.
So I lived in England for 6-7 years.
J'ai vécu en Angleterre pendant 6-7 ans. J'ai étudié, j'ai travaillé. J'avais même ma carte de résidence. Mais j'ai eu des problèmes. avec les autorités anglaises qui m'ont renvoyé en Afghanistan, même si c'était compliqué, dangereux pour moi. La première fois que je suis retourné à l'ambassade d'Afghanistan pour parler de mes problèmes, il y a eu une explosion à Kaboul qui m'a traumatisé. Alors j'ai décidé de plus y retourner. J'avais d'autres problèmes personnels avec les talibans, Daesh et d'autres groupes. Il y avait la guerre depuis quelques années en Afghanistan. J'espère qu'on aura la paix encore un jour. J'ai décidé, parce que c'était trop dangereux, de quitter l'Afghanistan. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui en France, à Marseille. J'espère que le monde entier vivra en paix. La Palestine, l'Afghanistan, la Syrie. Et que la plupart des pays seront en paix bientôt. Tout le monde devrait se respecter.
Et
tout n'est que opinion personnelle. Et on devrait juste vivre en bonne entente et s'aimer. Peu importe qu'on soit musulman, chrétien, juif. On est tous des êtres humains, on devrait tous se respecter. Alors... C'est l'histoire de ma vie.
Oui, merci beaucoup.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Queen Daniel. J'ai 29 ans. J'ai maman de trois filles, trois enfants. J'ai 8 ans en France. Je suis Nigériane. Aujourd'hui, je voulais chanter les chansons de ma ville, de mon pays qui s'appelle Bienvenue tout le monde. Eh wo, magbobo kianu waya. Eh wo, magbobo kianu waya. Ni remana. Magbabo kyan waniri uge, osalo bwagba ogima, kewima wani doku, dogima. Ewo, magbabo kyan waya, ewo, magbabo kyan waya, nire mana. Imagbabo kyan waya niri uge, osalo bwagba. Baogi wa kewi mama ni doku togi ma. C'est tout.
Et voilà, c'était Ejrad et Queen. Vous savez comment on appelle quelqu'un qui parle trois langues? Un trilingue. Quelqu'un qui parle deux langues? Un bilingue. Quelqu'un qui parle qu'une langue? Un français.
Un français, voilà, mais oui, bien sûr. Mais oui, bah ouais, on est des patates. Hein.
Bah ouais,
alors
ouais.
Moi, je me permets de le dire, on est vraiment des patates. Moi, je suis une patate. Hein, alors là.
Un pavé dans la mare.
Alors, il y a un petit mois, ici, à Herbel, a eu lieu la semaine des droits des femmes. Il y a eu plein de choses d'organisées. Nous, on était là, avec notre micro. Et on ne savait plus où donner de la tête parce qu'il y avait plein de choses. Et entre autres choses, il y a eu un débat philosophique mené par Stéphane Sellito. Et ce débat avait pour thème l'égalité fille-garçon.
D'après vous, c'est quoi la différence entre les garçons et les filles ?
Que les garçons, ce n'est pas des filles. Ils ne portent pas les mêmes habits. Les garçons, ils portent des habits de garçons. Les filles, ils portent des habits de filles.
En fait, les garçons, ils n'ont pas des longs cheveux et les filles, oui.
En plus, des fois, il y a des garçons qui sont plus grands que les filles, et des fois, il y a des filles qui sont plus grandes que les garçons. Des fois, ils font la course, des fois, c'est les filles qui gagnent, des fois, c'est les garçons.
Et qui c'est qui est plus intelligent, c'est les garçons ou les filles?
C'est les deux qui sont plus intelligents.
Mais c'est notre tête qui réfléchit. Il y en a des fois des garçons qui ont des cheveux courts et aussi des garçons qui ont des cheveux pas longs.
Et comment on voit que Charles, c'est un garçon?
Parce qu'en fait, il a la moustache.
Alors, c'est quoi la différence entre les filles et les garçons? Vous avez une idée, vous? Nelly?
Alors, la différence entre les filles et les garçons. Ça, attends, non, là, si tu m'envoies là, Charles, attention à toi, parce que alors là, on va prendre alors, une demi-heure de retard dans l'émission.
J'ai peut-être mal posé la question. Est-ce qu'il y a une ou des différences entre les filles et les garçons?
Est-ce qu'il y a une ou des différences?
Je ne devrais pas poser cette question.
Non, il ne faut pas que tu me la poses à moi. Je ne vais, vais même pas tenter d'y répondre. Parce
d'accord.
Que...
C'était pour souffler un peu sur les braises. Mais bon, tant pis.
Non, c'est le sujet est très vaste.
Ah oui.
Et tu vois, si je mets une moustache, je suis donc un garçon.
Bah, d'après les enfants, oui.
Ok. Eh bien, moi, ça, je trouve que c'est pas mal. Tu vois. Et puis, j'enlève la moustache et je redeviens une fille. Et puis, je lui mets une demi-moustache. Je suis peut-être un gaille ou un fillon.
Ou un chat.
Ou un chat aussi, ouais. Un chat, ouais.
Ah oui, mais c'est bien de sentir cette poigne dans ta voix.
Ouais.
Et on a senti ça durant
parce que
cette semaine.
Les libellules ont de la poigne dans la voix.
Surtout dans les mains.
Ouais. Les mains aussi, oui, c'est vrai, tu as raison. Oui.
On a senti ça beaucoup cette semaine, pendant la semaine du droit des femmes, des droits des femmes, à l'atelier Pancartes et Slogans. Et c'était un groupe de femmes qui s'appelle Girl Power.
Yeah.
Et elles faisaient des pancartes et des slogans en vue d'une manif.
C'est à faire, après,
à faire. Ça, c'est pour les messieurs comme vous.
À faire, voilà.
Voilà, et tic.
Voilà.
Tic.
Voilà. C'est pour faire comprendre aux hommes, ce serait bien qu'ils participent un peu chez eux. À aider les femmes à cuisiner, à donner un coup de main, quoi.
Ça, c'est Yvel.
La loi Veil. Je ne comprends pas que la loi de Simone Veil, quand même. Moi, je me rappelle, dans les années 80, l'avortement, c'était pas... c'était devenu quelque chose, qui était donné aux femmes, quand même. Puis, je ne comprends pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore un problème. Voilà.
Mais c'est long pour que ça change.
Là, on prépare les pancartes, voilà. On prépare ça, et puis après, pour une belle manifestation, on y va. Et... Voilà, c'est les idées qu'on met, par exemple. Non, c'est non, ça veut dire que quand une femme dit non, elle dit non, quoi. C'est pas oui. Quoi. Je pense que c'est le thème aussi.
On ne prend pas comme on jette une poupée. Non, on est des êtres humains. Il faut que les hommes acceptent ça.
C'est toujours le droit de la femme, hein. La défense, le droit, tout ça. L'égalité, enfin, voilà. Donc moi, c'est la première fois que je le fais. Et puis vendredi, c'est la manif. Et comme ça, ben, on y va et on fait, voilà, et au moins tout ce qu'on a fait.
Notre temps est arrivé. Alors c'était bien cette manif, Ivan?
Ah, c'était génial.
C'était où?
C'était super, c'était de la Canebière jusqu'au cours Julien. Et on est parti avec un groupe de femmes de 18 à... arrondis pas d'ailleurs, hein, on ne dit pas. Et c'était pour toutes les femmes, c'était leur première manif. C'était une expérience assez, assez incroyable parce que c'est quand même c'est très militant une manif du 8 mars. C'est des féministes engagées, militantes, c'est presque des militantes professionnelles. Enfin. Et nous, on était avec notre banderole Centre Social Herbel et nos panneaux qui tenaient avec des bâtons de barbapapa parce qu'on avait trouvé que ça pour faire les panneaux. Et c'était vraiment très très chouette. C'était un mélange qui était souhaitable. Enfin, c'était vraiment, on était entre femmes avec des convictions et c'était l'issue d'une semaine. C'est-à-dire qu'on avait travaillé pendant toute une semaine sur qu'est-ce que c'est les revendications féministes et pourquoi est-ce qu'on a le droit de dire quand on est une femme et quand on est une femme, alors peut-être à plus forte raison quand on habite dans un quartier prioritaire, qu'on est féministe. Et puis ceux que ça dérange et qui viennent nous demander des explications, on saura répondre.
Et c'est juste une petite question, si je peux me permettre. Pourquoi vous êtes allée à cette manif? Tu disais que pour la plupart des participantes, c'était leur première fois. Et vous, en tant que centre social, c'était votre première fois aussi? Ou vous l'aviez déjà fait, cette manif?
Non, c'était la première fois qu'on accompagnait un groupe à la manif. Moi, j'y vais tous les ans. Donc, c'était une proposition. Il n'y avait pas de... C'est une proposition qui leur a été faite.
Ouais.
D'aller à la manif si elle le souhaitait, si elle avait envie, enfin si il le souhaitait d'ailleurs, parce que c'était
oui, ça s'adressait pas qu'aux femmes.
Des hommes pouvaient venir. C'était parce qu'on travaille en tant que centre social, on travaille toujours sur la citoyenneté. C'est quelque chose qu'on nous demande de faire et c'est quelque chose auquel on croit. Et pour moi, l'aboutissement de l'engagement citoyen, c'est aller dans la rue, battre le pavé et crier ses revendications, chanter.
Merci beaucoup, Ivan.
Merci, Charles.
Alors, lors de l'enregistrement des histoires du groupe de Primo Arrivant, il y a eu un petit problème. En fait, le jour où on était là pour enregistrer, il y a eu un absent, Jorge. Et Jorge, il nous a donné rendez-vous un jour, quand il pouvait, à Herbel. Alors, c'était entre midi et deux. Alors, entre midi et deux, le centre social est fermé. Du coup, eh ben, on l'a enregistré, mais dans la bagnole.
Bon, moi, je m'appelle Jorge Luis. Je viens de Venezuela, j'ai 23 ans. Et je voudrais raconter un peu sur pourquoi je suis venu ici en France. Donc, moi, j'ai pris la décision de venir en janvier 2018. Parce que j'ai eu des problèmes avec ma participation avec mon frère. C'était pour participer déjà dans les manifestations au pays, c'est une chose qu'on ne peut pas le faire librement, parce qu'on n'a pas la liberté dans mon pays. Donc on était saisi pour la police et on était emprisonné en 2014, la première fois, pour participer simplement dans les manifestations. Parce qu'on avait envie d'avoir un autre gouvernement. Donc on était ensemble, on est arrivé à une prison du quartier. Pour moi, c'était l'une des expériences plus fortes dans ma vie. Parce qu'avant d'arriver là, on était frappé par la police. Parce qu'ils avaient envie de le faire. Donc ils se sont arrêtés dans une rue qui était isolée. Pour nous frapper et après ils nous ont jetés en prison. La police a enregistré notre figure et chaque fois qu'on était sorti, j'ai continué à manifester avec mes camarades de l'université et mon frère aussi. Et on avait des persécutions de personnes qu'on ne connaît pas et plusieurs fois on a été dans la situation de courir pour sauver notre vie. Ma tante, elle a pris la décision pour ma sécurité de me donner l'opportunité de venir et bon, commencer à demander le statut d'asile de réfugié. Donc, j'ai pris le risque de venir et demander le statut de réfugié. Parce que c'est vrai qu'une chose qui est vraiment importante pour une personne, c'est la sécurité. Mais dans mon pays, je ne l'ai pas. La santé, la sécurité et un niveau d'éducation de mon pays. C'est-à-dire que si tu arrives à un hôpital, tu vas être couché par terre. Il n'y a pas de médicaments à niveau de sécurité où tu sois, tu pourras être volé, tu pourras être séquestré, tu pourras être tué. Parce que c'est comme ça, la police elle est avec les voleurs. Et à niveau social, il y a des pauvretés. Les petits enfants, ils doivent aller à l'école, mais comme il n'y a pas l'économie pour acheter les cahiers, les livres, ils ne peuvent pas aller.
Aquí hay una oposición que se lanzó por la aventura de intentar incendiar a Venezuela solicitando la intervención de nuestro país. Hemos derrotado ya la intentona golpista interna. Bueno, seguramente habrá coletazos.
Maintenant, Nicolas Maduro, je peux le dire librement, il est un dictateur caché, on peut dire, parce que à niveau international, il dit qu'il n'est pas un dictateur, mais on sait qu'il est. Je peux pas retourner à mon pays parce que après que tu as le statut et bien sûr pour ma sécurité. Et aujourd'hui, mon frère il est aussi parti au Mexique. Et mais c'est dur parce que habiter sans ta mère, ton père et ton frère et mes amis, c'est pas le même si tu arrives dans un pays où tu n'as pas quelqu'un pour peut-être parler, pour raconter des choses, pour raconter tes problèmes. Et aussi j'avais ma petite amie là, mais elle n'a pas le passeport. Et dans mon pays, pour avoir le passeport, tu dois payer entre 2 000 et 3 000 dollars. Donc déjà, ce n'est pas la monnaie du pays. Et c'est ça la corruption qu'il y a. Il y a corruption partout. C'est ça qui me manque principalement. Mes amis, ma famille et mes petits amis. Bon. Mais bon, je voudrais lui dire qu'il me manque. Je sais que tout va se passer. Et on va se voir encore. Parce que dans ma langue, on a une expression qui dit que no hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Ce qui veut dire qu'il n'y a chose mauvaise qui peut rester pour toute la vie. Il va y avoir un point là que ça va se couper et on va changer. Donc j'espère que le gouvernement il va être tombé et va devenir une nouvelle génération de mon pays. Et je sais que plusieurs Vénézuéliens, ils vont retourner au pays parce qu'on a l'espoir de que tout ça va se passer. No hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista.
Alors, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous écoutez Un pavé dans la mare. On est toujours à l'espace lecture d'Herbel, dans le 11e arrondissement de Marseille, devant un public de folie. Silence. C'est l'heure, mesdames et messieurs, de notre grand jeu, le « Tu crois quoi ?». Le « Tu crois quoi ?», un jeu avec des questions absurdes et des réponses approximatives, mais néanmoins pertinentes. Il n'y a pas grand-chose à gagner, mais en tout cas, il n'y a rien à perdre. Nos deux candidates du jour, bonjour Asma.
Bonjour.
Ça va ? Tu peux parler dans le micro, comme ça.
Oui, ça va, et vous ?
Ah bah ça va très bien. Bonjour Zakaïr.
Bonjour.
Bonjour. Alors, quel âge avez-vous respectivement ?
J'ai 14 ans.
J'ai 10 ans.
10 ans. Donc, à vous deux, vous avez environ 24 ans, donc tout va bien.
Est-ce qu'on peut demander le soutien du public aussi ?
Ah bah oui, le public déchaîné va évidemment nous soutenir.
Le public peut jouer avec nous et nous soutenir.
Attention, question, on écoute.
Au Royaume-Uni, dans la ville de York, que peut-on faire en toute légalité ? Conduire ivre jusqu'à 1,2 g d'alcool dans le sang ? Tuer un Écossais s'il porte un arc et des flèches ? Écraser les chiens errants qui ne portent pas de collier ?
Alors, que peut-on faire dans la ville de York, au Royaume-Uni, en toute légalité ?
Boire de l'eau.
Boire de l'eau, oui, ça, mais entre, bien sûr, on peut le faire, mais entre les trois propositions.
Un Écossais.
Être un Écossais. Alors, il y avait être ivre, conduire ivre avec moins de 1,2 g d'alcool dans le sang, tuer avec un Écossais plus, ouais, s'il plus. Porte un arc et des flèches, et écraser les chiens errants s'ils n'ont pas de collier.
Mais qu'en pense le public? Oui. Le public déchaîné, qu'en pense le public?
De chiens? De chiens errants?
L'histoire des chiens. Non, moi je crois qu'on a le droit de conduire avec beaucoup, 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 beaucoup d'alcool dans le sang.
D'accord.
Vous êtes d'accord, madame? Ouais.
Et qu'en pensent nos, deux candidates
Ouais, moi aussi.
Qu'en pensent nos deux candidates? Qu'est-ce que vous diriez, vous? Parce que quand même, c'est vous qui jouez, qui êtes susceptible ou non de repartir avec un superbe cadeau.
Je sais pas.
Je vous rappelle. Ah, ça souffle dans le public.
Ouais, ça souffle.
Alors, être conduire ivre, tuer un Écossais, écraser les chiens. Quel programme en Angleterre, c'est super.
On a le droit d'être un Écossais.
Alors, une réponse.
Conduire et pas boire d'alcool.
Conduire, ivre, c'est ça? Vous êtes d'accord toutes les deux?
Oui. Ouais.
Eh ben, c'est pas ça.
Oh.
Et non. Figurez-vous que à York, au Royaume-Uni, on peut, en toute légalité, tuer un Écossais s'il porte un arc et des flèches. C'est une vieille loi qui n'a toujours pas été retirée du code de loi, du code civil.
Mais pourquoi on a le droit?
Hein?
Tu ris?
Ah non? C'est vrai? C'est vrai. Mais je pense qu'on peut quand même applaudir nos deux candidates parce qu'elles ont fait un sans faute. Et de toute façon, la dernière question était une question idiote. Elle n'était pas absurde. Donc, vous avez gagné un magnifique cadre de l'émission Un pavé dans la mare. Alors, il va falloir choisir lequel vous voulez. C'est... Ah, bah, il faut vous concerter aussi. Alors
Moi, je ne sais pas.
Ah, alors, je vous les mets là. Et puis, vous choisissez sans vous battre. OK?
C'est celui qu'on va derrière toi, Charles, là?
Ah non, celui-là, c'est le mien. Je ne le donne pas. Il est à moi, je le garde.
Mais est-ce qu'il y a la même photo?
Ah oui, c'est la même photo.
Un pavé dans la mare.
Exactement.
Dans une mare.
Parce que Un pavé dans la mare, c'est le titre de l'émission. D'ailleurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission Un pavé dans la mare. Alors, je voudrais remercier le public d'Herbel. Je voudrais remercier nos invités. Ivan Morantin, je voudrais remercier aussi Roukia Hassani et Nelly Fleischer, la libellule du jour. Merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui ont participé à la fabrication de cette émission, à savoir Fatima, Rani, Melilfi, Raphaël, Edita, Ejrad, Queen, George, Aïda, Silima, Rachida, Morad, Thomas, Yanis, Ryan, Sarah, Adam, Sami, Asma, Joël, Célia, Sarah, Fatouma, Nasria. Merci à Claire et Céline de l'espace Lecture SLM de nous avoir accueillis. C'était Un pavé dans la mare, une émission produite par L'Art de Vivre en collaboration avec Radio Grenouille. Présenté par moi-même et réalisé par Charles-Henri Despeignes. Rendez-vous cet été, ici même, à Herbel, pour la prochaine émission. Au revoir.
Bravo les Charles, bravo.